on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, on fait le match, 18h30, 20h, pardonnez-moi, sommaire XXL pour débattre de l'actualité football, non pas des matchs, vous le savez, tout est à l'arrêt, mais de ceux livrés en coulisses, et ils sont musclés, vous allez pouvoir vous en rendre compte ce soir. Je le répète, nous le répétons ici, évidemment, il y a plus important que le football dans la vie, en cette période difficile et dramatique pour beaucoup, mais nous avons envie de continuer à partager notre passion commune, à informer, à vous distraire, à échanger avec vous et à vous changer les idées surtout. Et comme chaque samedi soir également, une pensée vraiment pour les victimes de cette saloperie, une pensée à leur entourage et d'énormes encouragements au personnel soignant, du plus grand professeur à l'agent d'entretien de nos hôpitaux, cliniques et EHPAD. Rejoignez-nous sur le compte Twitter @RTLFoot ou le 3210-3210 pour partager cette heure et demie de direct. Et avec moi ce soir, David Aiello, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Stéphane Powell, RTL, TV5 Monde et le Benelux se réunit, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde.
Florian Gazan, l'incollable des grosses têtes, service des sports, RTL également, et du football, l'incollable en général. Bonsoir Florian.
Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde.
Philippe Sanfour, chef de la rubrique RTL Foot, bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Baptiste Durieux qui relaiera tous vos messages sur les réseaux sociaux, bonsoir.
Absolument, salut Christian, salut à tous.
Et mesdames, messieurs, en tournée pré-américaine, il est venu ce soir avec son orchestre, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant, Mister Vicente Lizarazu, bonsoir.
Salut Christian, bonsoir messieurs. Bonsoir à toutes et à tous.
Vous écoutez RTL et vous avez bien raison, à tout de suite.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Messieurs, le sommaire, 18h30-19h, c'est le bazar. Je vous le dis tout de suite, c'est le bazar, c'est la cacophonie dans le football français. Alors cette question qui m'a été un peu soufflée par David Aiello ce matin, qui doit décider de la reprise du championnat? Les joueurs, les présidents, les médecins? Et j'y ajoute moi, et si c'était tout simplement le virus lui-même? Voilà, première question, donc qui doit décider de la reprise du championnat, joueur, président, médecin, ou le virus finalement, lui-même? 19h, donc vous connaissez, alors tiens, à 19h, là, vous connaissez cette célèbre formule pour les boursiers, acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Voilà, donc quand, si vous voulez faire acheter des bonnes affaires en
c'est
bourse, il faut acheter vraiment au plus bas. Alors moi je pose
moi,
la question,
la casse, si
et oui, y a-t-il des investisseurs, Bichente, intéressés à profiter de la crise économique pour reprendre des clubs comme Saint-Etienne, Bordeaux ou encore Marseille, puisque c'est la dernière rumeur en date?
Dépend des dettes, hein.
Bien sûr, mais on te les donnera les dettes tout à l'heure, elles sont gratinées. À 19h15, le foot amateur crie famine, est-il le grand oublié du coronavirus? Et puis entre 19h30 et 20h, toutes les questions du ballon rond, les express dont fait le match, la boîte à questions, les supporters doivent-ils être remboursés ou un simple avoir suffira-t-il? Neymar à Barcelone, tiens, on en parlait déjà la semaine dernière, rien d'impossible pour l'ex-vice-président de Barcelone, Info Intox. Benzema annonce qu'il pourrait revenir à Lyon, mais à Lyon où? Dans sa ville ou au club, à l'Olympique Lyonnais?
En vacances.
On y reparlera. Et alors Florian Maurice de Lyon Arène également, nouveau directeur sportif, est-ce que ça changera votre vie? Ça, vous y répondrez également. Bichente, une petite surprise en fin d'émission également, tu tiens à tenir et à honorer ta promesse.
Hein, j'ai qu'une parole Christian, j'ai annoncé que j'allais jouer un morceau de guitare.
Bon,
voilà. Enfin, guitare-voix. Et pas dans, et en espagnol en plus.
Vous avez vu,
j'ai pris beaucoup de risques.
Le Santana basque.
Ouais. Santana
basque. J'ai vu que vous écoutez Carlos Santana régulièrement.
Ouais, j'aime beaucoup.
Eh bien, c'est pour ça que vous aimez Bichente aussi. On va voir la qualité.
Il y aura
musicale.
Un avant et un après. On refait le match, je vous le dis tout de suite.
Ouais. Autant j'ai confiance.
Cette mission restera dans la légende.
C'est retour sur scène parce que de l'époque où tu jouais de la gratte et où tu chantais, c'était.
Là, c'est plutôt ma tournée d'adieu. Ah. Mais la dernière fois que j'ai joué de la guitare, c'était à Munich, au Bayern.
Ouais,
ça date. Je me suis un peu entraîné quand même pour essayer d'être audible.
Bon.
Mais bon, voilà. Ça peut être catastrophique Christian,
oui,
lamentable même, hein, tu vois ce que je te dis, mais un pari est un pari.
Alors c'est exactement ce que je dis aux auditeurs qui nous écoutent, c'est exactement ce que Bichente m'a dit au téléphone. Tu sais, ça peut être catastrophique, ça peut être un fiasco et ça peut être, bon voilà, il avait la pression, une pression terrible.
Mais vous aussi Christian.
Mais il a répété toute la journée.
Oui, mais vous aussi,
ah non,
vous avez
non,
la pression,
non,
aussi si vous avez mal dormi.
Non,
non,
mais vous voulez pas qu'on commence par ça, on se débarrasse.
Bon.
Oui, t'as raison. Ça serait mieux pour moi.
Oui, mais on pourrait faire fuir les auditeurs.
Plus détendu pour, tu vois, pour le foot, en fait.
Si Bichette fait de la musique, on peut demander à madame de faire un concours de jongle et de poster sur RTL.fr.
Bon, le plat de résistance, on attaque tout de suite.
Ouais.
Hein, avant le dessert de tout à l'heure, le plat de résistance sans entrée direct. La reprise du championnat, c'est pour quand? Et si c'était pour jamais, en tout cas pas pour le 17 juin, qui veut prendre la parole?
Écoutez, si je puis me permettre, je pense qu'on pense tous ça. C'est que,
Stéphane Powell.
Pour l'instant, on voit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'une fois, c'est l'UEFA qui intervient, puis c'est la FIFA, puisqu'il est président du club, puis l'association, le président de Saint-Etienne qui nous avait parlé à ce micro. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je pense que franchement, il va falloir avoir un échéancier et devoir définir un moment quand on reprend l'entraînement et quand on va reprendre les matchs. Parce que pour l'instant, ça part en sucette. Il y a même des clubs qui reprennent des entraînements sans pouvoir toucher le ballon. On en a parlé la semaine dernière, c'est une blague belge, mais ça existe. Pas en France, mais on parle du Bayern. Non, mais il y a quand même des clubs qui ont des envies de reprendre. Et je pense qu'il va falloir mettre un échéancier et mettre tout le monde sur la même baseline parce qu'on ne va pas s'en sortir.
Alors, à partir du 11 mai, logiquement, donc, on attaque le début de l'amorce timide, sans aucun doute. Et restons prudents parce qu'on parle de choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, c'est même pas sûr. Disons que le 11 mai, il pourrait y avoir le début de l'amorce d'un déconfinement. Est-ce qu'on peut considérer que le 12 au matin, les entraînements peuvent s'amorcer?
On est obligé d'anticiper, en fait. Les dirigeants sont obligés d'anticiper. Et aujourd'hui, il y a une réflexion. Normalement, le championnat 2020-2021 devait commencer le 8 août, je crois. Et il pourrait être décalé au 23 août.
Yes.
Voilà, donc il pourrait être décalé au 23 août. Et en fait, l'idée, ça serait que les 10 matchs qui restent, donc du championnat 2019-2020, se terminent au 25 juillet.
Je t'ai perdu.
25 juillet, donc il y aura un mois d'écart entre les deux saisons.
Et en fait, il y aurait un mois d'écart entre les deux saisons. Et l'idée serait qu'il y ait 15 jours de vacances pour les joueurs et 15 jours de préparation. Ça, c'est la commission qui travaille là-dessus qui est dans cette réflexion-là. Tu te rappelles la semaine dernière ce que moi je t'ai dit, où je préférais carrément faire une grosse préparation et enchaîner
les 10 derniers matchs, les dernières journées plutôt, voilà, et
la saison suivante, parce que je pense que ça, c'est à partir du moment où on a un timing, je veux dire, il faut démarrer mi-mai, hein, l'entraînement. Il faut démarrer mi-mai, c'est-à-dire que le président Macron nous a annoncé le 11 mai, il faudrait que les joueurs démarrent l'entraînement le mi-mai, reprise de la compétition mi-juin et fin de la compétition 25 juillet, on va dire.
Mais ce n'est pas ma question, c'est qui doit décider de la reprise du championnat.
C'est ma réponse.
Tu es comme un homme politique, tu viens avec mes questions.
Je te dis juste une anticipation de la situation, et aujourd'hui, en fait, t'es vraiment coincé, en fait. T'es coincé par le temps qui passe.
Oui, mais comprends ce que je veux dire, Bichente. Qui doit décider de la reprise du championnat? On a l'impression que les présidents sont dépassés, que les joueurs, pour l'instant, n'ont pas trop la parole, et que ce sont les médecins, précisément, qui vont devoir annoncer le protocole. Philippe Sanfourche.
Médecin, attention. Pardon, excuse-moi, Philippe, je te laisse. Médecin, sur quel sujet? Le sujet virus ou le sujet préparation physique? Parce que ce sont deux sujets complètement différents.
Non, parce que tu es trop dans l'anticipation avec ta préparation.
Mais oui, mais moi, je suis obligé d'être dans ça. Moi, je suis dans la protection des joueurs et je te dis, en tant qu'ancien joueur, ce dont tu as besoin pour le moins traumatiser ton corps. Après, le virus, excuse-moi Christian, moi j'en sais rien.
Personne.
Moi j'en sais rien et personne n'en sait rien. Et les docteurs, ils n'en savent rien parce que les docteurs des clubs sont des docteurs spécialisés dans le sport et même les spécialistes spécialisés dans le virus, ils ont des avis différents.
Philippe Sanfourche.
Mais pour résumer ça, on peut reprendre les propos du directeur médical de la Fédération française de football qu'on a entendu sur l'antenne d'RTL cette semaine, Emmanuel Laurent, qui disait par rapport à l'éventualité d'un retour à l'entraînement, d'un retour sur le terrain après le 11 mai, il va falloir avoir au moins quelques certitudes sanitaires. Et pour l'instant, des certitudes, on n'en a pas. Deuxième développement d'Emmanuel Laurent, est-ce que dans un mois, on aura des certitudes? Réponse, j'espère. Ça veut dire que, même au plus haut niveau médical, on n'a absolument aucune certitude aujourd'hui. Les dernières études démontrent que la contagion se fait, le pic de contagion se fait avant même de déclarer les premiers symptômes. Donc ça veut dire que même si vous multipliez les tests, si on part du principe que tous les gens qui sont en rapport, les joueurs, le médical, les physios, le gardien du stade, le jardinier, même si tu testes
tout
le monde...
Donc il ne faut pas anticiper pour toi. On ne sait pas.
Mais c'est qu'on peut pas.
Mais tu peux pas anticiper. Je fais exprès, je vous tends le bâton. Bichente, il dit faut anticiper.
Non. Il anticipe un programme de retour à la préparation en vue de jouer les 10 dernières journées plus la saison.
Dans le monde idéal et dans une situation où tu peux redémarrer après le fameux 11 mai.
Voilà.
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on anticipe
un comité exécutif de l'UEFA. comme il y a eu lorsqu'il a fallu reporter l'Euro. Donc les 55 fédérations sont en visioconférence. Et qu'est-ce qui va être dit ? Que oui, il y a des calendriers qui sont pour l'instant possibles avec une finale de Ligue des Champions le 29 août, tout ça. C'est normal, c'est le rôle des dirigeants d'anticiper. Mais il n'y a aucune décision qui va être prise jeudi, puisque aucune ligue aujourd'hui réunion, n'est en capacité de dire quand est-ce qu'elle va reprendre.
Mais c'est pour ça que pour en revenir à la question sur le rôle des présidents, des joueurs, qu'il est vrai, on entend assez peu hein, pour l'instant, que ça soit de manière individuelle ou de manière groupée.
Ils n'ont pas l'air très chauds pour reprendre les joueurs.
Ils n'ont pas l'air pressés. Hein. Mais je comprends. Ils ont plutôt pas l'air de.
Alors il y a une consultation avec des résultats qui va nous parvenir, en tout cas via l'UNFP, le syndicat des joueurs, hein, l'Union nationale des footballeurs professionnels, en début de semaine, puisque les joueurs ou une partie de ces joueurs ont été consultés. Il semblerait quand même qu'il y ait une grosse majorité de joueurs à vouloir sécuriser, bien évidemment, leur santé, donc à vouloir
jouer. Et surtout ceux qui ont des familles.
Et à vouloir jouer la prudence.
Et c'est pour ça que justement, les joueurs, on ne les entend pas encore, mais globalement, on comprend qu'ils ne vont pas être favorables à une reprise. D'un autre côté, les médecins, on vient de le dire, n'ont pas de visibilité. C'est la réalité, c'est qu'on n'a pas de visibilité, pas de certitude. Et de l'autre côté, on a les présidents. Il faut le dire, pour la majorité, pousse pour une reprise pour des raisons économiques.
De moins en moins, David.
Effectivement, mais en l'occurrence, je pense que pour moi, à la base, effectivement, les présidents président, mais là, la situation est complètement différente. La parole doit revenir aux médecins.
Bah, évidemment, c'est les médecins. Quand ta bagnole est en panne, tu ne demandes pas à l'assureur de la réparer. C'est le garagiste. Donc, à un moment donné, c'est ceux qui savent le plus. Et encore, tout est relatif parce qu'on entend un peu. On sent bien qu'il y a encore des zones d'ombre sur ce virus et que plus ça évolue, moins on sait finalement. Tu es obligé d'attendre d'abord cet avis médical et c'est bien d'anticiper, mais tu es obligé d'anticiper par rapport limite à plusieurs dates. Alors, est-ce que c'est le 11, le 15, le 20, le 25 ? Alors, il faut faire plein de plans prévisionnels. Mais le problème, c'est que la question surtout, c'est pourquoi il faut reprendre en fait ? Il y a finalement pas mal de sports en France.
Mais non, mais oui, je
pas
les mêmes enjeux.
Le hand s'est arrêté, le basket s'est arrêté et donc le foot.
Alors, précision.
Il faut reprendre pour essayer de limiter la casse, mais dans la mesure du possible et dans le respect de la santé des joueurs.
Bien sûr.
Si tu peux faire l'effort, enfin je sais pas, moi si j'étais joueur et si on me disait que dans certaines circonstances, enfin on pourrait reprendre l'entraînement et reprendre la compétition en me garantissant que ça peut se faire. Alors évidemment déjà à huis clos parce que c'est même plus le débat. Là, à un moment donné, on parlait avec public sans public, sans public.
Ah,
ça se termine à dos.
C'est encore le débat à huis clos. Parce que ça fait trois semaines.
Mais non, mais de toute façon, à huis clos, c'est sûr, ça sera à huis clos.
Bichente, ça fait trois semaines dont on fait le match. Qu'on se pose les questions. Et on va le dire sans prétention, avant pas mal de monde. Un, déconfinement ou pas, quand, comment, où, pour quel club, on s'était déjà posé la question. Match à huis clos, est-ce que c'est vraiment sérieux ? On s'était posé la question. Transport des délégations absolument ingérables, on s'était posé la question. Un cas positif, un seul, qu'est-ce qu'on fait ? L'équipe déclare forfait avant de jouer, ça met le calendrier en l'air, on s'était posé la question. Retour des joueurs dans leurs milieux familiaux, où sont les barrières sanitaires ? On s'était posé la question. Les contrôles quasi quotidiens, puisque entraînement quotidien, donc, c'est cher et surtout, ça privilège les footballeurs par rapport au reste des Français, on s'était posé la question. Excusez-moi les amis, mais il y a ceux qui ont la vue basse et de l'eau à la place du cerveau qui n'avaient pas compris que les problèmes étaient à venir.
Mais ils sont à venir et puis c'est impossible de répondre à toutes ces questions. On se rend bien compte qu'il va falloir jouer à huis clos et ça va être trop compliqué puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la gestion de ce virus. Moi je voudrais juste un truc, et hors virus, mais je pense qu'on est tous d'accord avec ça. C'est qu'à un moment, comme dit Florian, il y a tellement d'informations qu'on est perdu, on ne sait pas. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a certains, et notamment dans mon petit pays, où on parle de déconfinement. C'est surréaliste, quoi. C'est surréaliste. On est encore dans une situation où il y a des gens qui meurent tous les jours, où on ne maîtrise pas cette situation du virus. On est en train de nous dire, on va déconfiner, on va jouer au football et les gens vont venir dans le stade.
Alors,
on ne vit pas au pays des bisounours.
Alors, messieurs, Bichente, je vous pose la question différemment. Est-ce que finalement, au moins les 10 dernières journées, c'est-à-dire la saison qui vient de s'écouler et qui n'est pas terminée, est-ce qu'elle n'est pas d'ores et déjà pliée ?
C'est le sentiment qui prévaut jour après jour. Moi, j'avoue qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité hein, dans cette période. La position qui était la mienne il y a encore deux ou trois semaines, elle évolue. Et les jours passent, les semaines passent. Et j'ai le sentiment que bon an, mal an, tous les problèmes, par exemple, économiques des clubs qu'il fallait entendre, sont en train... pas de se régler, mais on amortit le choc. On va dire qu'en plus, en France, on est plutôt bien lotis. Les clubs de football, comme n'importe quelle entreprise, ont accès aux fameux prêts garantis par l'État, ce qui fait que pour l'instant, ils peuvent essayer un petit peu d'amortir.
Ils s'achètent du temps un peu, quoi.
L'absence de droits télé, ils l'amortissent avec des prêts longue
durée. C'est comme la petite
entreprise,
le restaurant, etc., qui va emprunter et va devoir rembourser derrière. Hein.
Oui, mais ces prêts, justement, permettent de lisser sur très longtemps. Il y a des taux très bas, ce qui fait que, comme en plus, le football a cet avantage sur les restaurateurs, c'est qu'ils ont la garantie normalement, de droits télé importants qui vont arriver par la suite. Donc finalement, est-ce qu'aujourd'hui, le discours de raison n'est pas de se dire « on tire un trait sur cette saison et on repart dans de bonnes conditions quand ce sera possible ?» C'est peut-être...
Le président Toulouse est d'accord avec ton discours.
C'est un véritable crève-cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, toutes les semaines, on est là ici, on fait le point au fur et à mesure que la situation évolue. Pour moi, il y a trois semaines, envisager la fin du championnat, d'ailleurs tel que l'avait annoncé Jean-Michel Aulas, c'était impensable. Parce que je me disais, il faut que ça reprenne, parce que la Ligue 1, c'est la vie finalement, c'est
bien
notre
sûr,
vie.
Bien sûr, on a envie.
Et c'était impensable. Et plus ça va, plus je lis les informations,
attention,
plus la situation évolue, plus je me dis, c'est pas possible,
ah
on
n'y
arrivera pas.
Il y a une petite nuance. Il y a une petite nuance avec ce que proposait Jean-Michel Aulas.
Aulas proposait
une saison blanche.
Oui, non, oui, je ne parle pas de la solution. Je parlais de son constat.
On mettait à la poubelle les 28 journées qui se sont disputées, on reprenait les classements de la saison dernière et on requalifiait l'Olympique Lyonnais.
C'est le débat qu'on aura un peu plus tard si se profile la fin de la saison.
Il faut être pragmatique. Pour le moment, on est dans un timing où on peut faire la fin de la saison 2019-2020 et faire la saison 2020-2021. On est dans les temps.
Il arrivera un moment
où on ne sera plus dans les temps, on ne pourra pas faire.
C'est pour ça,
Bichette. Et à ce moment-là, tu décideras, c'est fini la saison 2019-2020, on l'a fini de telle manière avec le classement figé.
Et ça, tu le situes à quel moment, Bichette? Tu le situes à quel moment?
Pour l'instant, c'est le moment où tu es en capacité, en termes d'agenda, de pouvoir finir ta saison et de continuer l'autre.
À condition de suivre un peu ce que tu proposais, c'est de faire une préparation liée
pour finir. C'est le truc ultime.
Parce que je pense que le gros problème, c'est ce que a dit tout à l'heure Philippe, cette histoire de trou de 15 jours de vacances et compagnie. Ça, on ne va pas y arriver. Je pense que la seule solution, c'est de faire un mois, comme dit Bichette, d'entraînement, enfin de préparation pour pouvoir finir et redémarrer dans la foulée.
Les 15 jours de vacances et les 15 jours de préparation.
Moi, j'y crois pas.
Ça, c'est la réflexion, on va dire, des présidents de club pour avoir aussi un mercato, hein, parce qu'il y a le sujet mercato.
Bien sûr, c'est super important. Surtout.
Moi, ce dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus pragmatique par rapport à la réalité, c'est-à-dire que ça ne va pas se régler en deux secondes. Le 11 mai, tout d'un coup, ça ne va pas être le grand soleil. Donc, je dis, si tu veux réduire au maximum, tu fais une préparation costaud et t'enchaînes. Et là, tu as encore un peu plus de temps. Tu gagnes un peu de temps.
Michel, je trouve que franchement, ce que tu proposes là, il me semble la solution la plus facile et pragmatique pour pouvoir reprendre.
Oui, mais ça, c'est la solution qui anticipe l'aspect sportif à la condition que le coronavirus nous fiche la paix.
Bien sûr,
Clairement, mais tu gagnes un peu de temps par rapport à la solution là des présidents à l'heure actuelle.
On gagne un mois.
Après, tu as une autre possibilité aussi qui est de reprendre le championnat plus tard, cet hiver, de faire façon à l'anglaise une sorte de Boxing Day et de jouer, de réduire cette trêve hivernale. Il y a quelques solutions de calendrier qui existent aussi. Moi, je pense quand même qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est d'abord savoir quand vraiment on pourra envisager de commencer à s'entraîner en prenant aucun risque.
Et en même temps, il y a une hypothèse qu'on a ici même, on n'arrive même pas à l'avancer. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, Flo. C'est le fait de s'arrêter maintenant. De se dire, ok, dont acte, on n'en sait rien, c'est trop compliqué, il y a trop d'incertitudes. On arrête, on met tout ça en stand-by et on prendra les bonnes décisions dans un mois, dans deux mois, quand il faudra le faire.
Alors là, il y a un truc, on va aussi arrêter d'être un petit peu au pays des bisounours. Si on vous l'avait dit tout à l'heure, il y a aussi des présidents qui ont tout intérêt à ce qu'on dise, hop, saison blanche.
Non, pas saison blanche, j'ai pas dit saison blanche.
Je vous le dis, il y en a qui vont dans ce sens-là. Dont le président de Toulouse qui est dans la commission pour gérer la situation, lui, il a vraiment envie de reprendre la petite saison, lui, tranquille, peinard, en Ligue 1. Donc, il y a un moment, il y a aussi des intérêts économiques. Et je pense quand même qu'il y a un côté malhonnête. Il y a certains dirigeants, qui ont une pensée plutôt économique que de se dire
on peut le dénoncer bien sûr. La situation la plus grave, c'est que les 10 dernières journées ne peuvent pas se jouer, ok, donc on repousse le prochain championnat autant que faire se peut et à une date encore non identifiée, avec les droits de Mediapro, les clubs actuellement peuvent s'asseoir sur les 300 derniers millions d'euros en tout, groupés Bein et Canal,
au revoir,
c'est différent entre les clubs à forte notoriété et les plus petits clubs.
Aussi.
Les plus petits clubs ont perçu 80-85% sommes, alors que les grands clubs type Paris, 60%, parce que c'est lié à la notoriété au classement de l'année.
Mais sur le plan sportif, et là j'aimerais vous entendre également, on autoriserait donc un championnat à 22 clubs. C'est-à-dire qu'on fait descendre Amiens 19e, Toulouse 20e, et on autorise Lorient et Lens, de mémoire, les deux premiers de la Ligue 2, à jouer le championnat de France la saison prochaine. Championnat de France à 22 clubs.
Sauf qu'on se rajoute des dates si on fait ça. On se rajoute des dates sur la saison suivante. Bah, ça fait 4 journées
oui,
en plus.
Oui, mais tu n'as plus de la Ligue.
Alors, voilà. C'est un peu cruel.
Ouais,
c'est un peu cruel.
On tombe dans des travers. Quoi.
Mais je trouve ça bien. C'est un peu cruel pour Amiens, je comprends bien, parce qu'ils étaient en train encore de se bagarrer. Enfin, c'était compliqué. Mais je trouve que ce système de revenir. Sans match de play-off, hein, c'est un peu comme ça. Mmh. Hein, ça s'est fait. Lens rate la montée l'année passée.
Oui, les barrages.
De barrages, pardon, vous appelez les barrages. Je pense que dans cette situation dramatique, les deux montants et les deux descendants me semblent la plus facile. Je vous dis pas qu'elle
non,
est bien.
Tu te rajoutes des journées alors qu'on sait déjà que le calendrier va être compliqué parce que cette situation, ça va pas s'arrêter au mois d'octobre. Tranquille.
Mais oui, au moins tu évites des gros problèmes.
Ah non, tu t'en crées d'autres.
Messieurs, Frédéric nous attend sur le 32-10 près de mes yeux, ou plutôt à mes yeux près de Lyon. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir tout le monde.
Supporter bonsoir, de l'Olympique bonsoir. Lyonnais, mais arbitre ou ancien arbitre d'ailleurs, Frédéric ?
Non, toujours en activité.
Bon, donc une grosse expérience dans le foot, de supporter, mais également d'acteur dans le football. Votre avis, Frédéric, là-dessus, sur ce championnat dont on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra redémarrer ?
Bah, c'est clair que moi, mon avis sur le sujet, c'est que c'est la dernière préoccupation que la majorité des Français peuvent avoir aujourd'hui, de savoir quand est-ce qu'on reprend le foot ou pas, puisqu'aujourd'hui, on est encore sur des problématiques d'ordre sanitaire, donc d'envisager une reprise footballistique avec des clubs qui vont se déplacer dans toute la France, loger dans des hôtels, avec tous les risques de contamination qu'il peut y avoir, je pense vraiment que c'est pas le sujet du moment, et que la dernière chose qui sera décidée, ce sera la reprise en particulier de la Ligue 1, de la Ligue 2. Pour moi, la saison, elle va être définitivement entérinée dans les semaines à venir parce que le timing fera que ce sera plus possible. Alors après, que ce soit une saison blanche pour entériner le championnat actuellement, il est clair que chacun va tirer la couverture à soi. Mmh. La problématique, elle n'est pas là. Elle est de se dire finalement, ceux qui ont des intérêts économiques, qu'est-ce qu'on en fait ? Si je prends juste l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas dit il faut faire une saison blanche, on sait bien pourquoi il propose ça, c'est parce qu'il a peur de perdre sa place en Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, il va aussi dire, oui mais nous on est encore qualifiés en Ligue des Champions, pourquoi on se ferait sortir alors qu'on est encore en course ? Donc pour moi le débat il sera pas là, le débat il sera de dire, de négocier comme a pu le faire le handball avec leur instance européenne, des wildcards pour des clubs avec une Coupe d'Europe qui sera un peu plus importante. Je crois que Nantes par exemple en handball a eu une wildcard pour pouvoir jouer la Ligue des Champions de handball l'année prochaine, alors qu'ils ne l'ont pas eu cette année.
Bichente, donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Il semblerait que l'Atlético de Madrid, par exemple, soit dans, dans ce cas-là, aujourd'hui, ouais, au sein de l'UEFA.
Merci Frédéric. Bichente, c'est une bonne idée, ça, effectivement, ce type d'invitation. Enfin, c'est pas d'invitation, mais c'est de...
Ouais, déjà... wildcard, quoi, comme au tennis.
Enfin, ouais. Si tu invites quelqu'un, il faut retirer quelqu'un.
Bah oui,
ou tu rajoutes, mais alors après, les calendriers, quoi.
Avant les informations de 19h et avant d'évoquer les autres sujets, j'ai une question à Bichente Lizarazu, mais je voudrais qu'elle soit contextualisée.
J'ai pas pu répondre, Christian, mais c'est sur la première partie de l'analyse de notre auditeur.
Frédéric.
J'étais pas d'accord. L'intérêt économique du foot, les gens s'en foutent parce qu'il y a une autre priorité sanitaire. Mais est-ce que dans le bâtiment, les gens du bâtiment s'en foutent de leur intérêt économique ? Est-ce que les gens qui ont besoin de bouffer, ils s'en foutent de l'intérêt économique ? Je crois que personne ne s'en fout de l'intérêt économique. À un moment donné, quand tu peux retravailler, quel que soit le métier, que tu sois footballeur, sportif, professionnel, que tu sois dans le bâtiment, que tu sois coiffeur, si tu peux retravailler dans des conditions acceptables d'un point de vue sanitaire, eh ben, il faut pouvoir retravailler pour limiter la casse. Et tout le monde est dans cette réflexion-là. Il y a plein de gens qui sont en stress parce que c'est leur entreprise qui sont en train de perdre. Tu vois, et donc, il faut trouver ce juste compromis-là et essayer de faire en sorte que les règles sanitaires puissent être respectées dans différents métiers. Malheureusement, il y a des métiers où ce n'est pas possible.
Ah à propos de règles sanitaires, en Belgique, on nous explique qu'il y a un médecin belge qui dit que les footballeurs peuvent reprendre l'entraînement et faire de la compétition avec des masques. Alors toi, le footballeur, Bichente.
Oh, c'est un peu galère. Moi, je me rappelle à l'époque, on jouait avec des espèces de trucs qui nous ouvraient les narines pour mieux respirer. Donc, te mettre un masque, c'est plutôt le contraire, là. Tu vois,
c'est injouable, ça.
C'est difficile de respirer avec un masque. Déjà, parler avec un masque c'est, en marchant, c'est difficile. Donc, courir avec un masque, ça me paraît compliqué.
Et c'est pourtant un médecin qui a pignon sur rue, j'ai envie de dire, et qui doit appartenir
déjà,
même à,
ouais, vous n'avez pas, avec un masque
à une commission médicale de l'UEFA.
Vous savez, vous n'êtes pas épargné aussi par ce genre de personnes qui, depuis le coronavirus, font des sorties médiatiques pour exister. Ce médecin est fantasque. Vous savez, le club d'Anderlecht s'est entraîné cette semaine et les joueurs ne pouvaient pas se donner le ballon. Bon, donc à un moment, je suis quasiment gêné d'être belge et pourtant je suis fier de l'être. Mais ça, c'est du très grand n'importe quoi. Il faut qu'il reste chez lui, qu'il arrête de dire des conneries. Quoi.
Point les réseaux sociaux, Baptiste Durieux, les messages sur notamment le compte @RTLFoot.
Absolument, et les propositions des auditeurs comme Fabrice, championnat gelé et moyenne des points par match depuis le début de la saison pour chaque club. Ajoutons à cela la différence de but et ça nous fait un classement, nous dit Fabrice. Message de Damien, j'ai la solution, il faut demander à Zidane tout simplement. C'est Zizou qui doit décider. Message d'Alexis, il faut faire un match de foot digne d'une finale de Ligue des Champions et le capitaine de l'équipe vainqueur décidera. Et puis le message de Johan également, d'accord avec Bichente, les plus grands spécialistes de l'histoire du virus ne sont pas d'accord entre eux. Alors comment peut-on arriver à un consensus dans le monde footballistique? C'est comme réconcilier Karim Benzema et Mathieu Valbuena, c'est impossible.
Il faut faire des vidéos.
Ça, c'est sûr.
Bon, j'insiste avec le masque. Non, hein, Bichente, ça, c'est juste pas possible.
Écoute, j'ai jamais essayé. Moi, je veux bien. Tu vois, je vais faire un test si tu veux. Et la semaine prochaine, je t'en parlerai.
Déjà,
je vais faire un test avec un masque. Je vais faire mes entraînements avec un masque et je te dirai si c'est possible ou pas.
Et tu mettras des gants pour les touches, hein, s'il te plaît.
Est-ce que tu peux chanter avec un masque et ta guitare en même temps?
On fait le match, les amis, avec Stéphane Powels, David Aiello, Florian Gazan, Philippe Sanfourche, Baptiste Durieux pour les réseaux sociaux et Bichente Lizarazu, bien évidemment, à 18h58 et 50 secondes, une page de publicité, les informations de 19h et derrière 19h, la suite d'On fait le match avec notamment la célèbre formule acheter au son du canon, vendre au son du clairon. Y a-t-il des investisseurs intéressés à profiter de la crise pour reprendre des clubs comme Saint-Etienne, Bordeaux, Marseille? Le football amateur, cri famine, est-ce que c'est le grand oublié du coronavirus? Et puis on parlera également des supporters qui seront peut-être remboursés ou qui auront plus sûrement un simple avoir. Est-ce que ça suffira? Neymar à Barcelone, rien d'impossible. Benzema annonce qu'il pourrait revenir à Lyon, mais où? Dans sa ville ou à l'Olympique Lyonnais? Florian Maurice de Lyon à Rennes, directeur sportif, est-ce que ça changera votre vie? À tout de suite.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match avec David Aiello, Stéphane Powels, Florian Gazan, Philippe Sanfourche, Baptiste Durieux qui relaie évidemment tous vos messages et ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter @RTLFoot. Restez chez vous, soyez prudents, nous vous accompagnons jusqu'à 20h et au-delà de 20h bien sûr avec les programmes de RTL. Après le plat de résistance, messieurs, la reprise hypothétique du championnat de France évoquée depuis 18h30 avec beaucoup de questions et peu de réponses, fonction évidemment de l'évolution du coronavirus. Deuxième sujet de conversation à partager avec les auditeurs de RTL, la santé financière des clubs français. Et j'imagine que cela intéresse bien évidemment les supporters. Quel avenir pour les clubs français? Sont-ils en danger? Comme à la bourse, donc, c'est quand les actions qui sont au plus bas que les investisseurs achètent. Est-ce que des investisseurs voraces pourraient se jeter sur l'AS Saint-Etienne, sur Bordeaux, sur l'Olympique de Marseille, dont les finances
encore
sont...
Faut-il être sûr que c'est le plus bas?
Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi...
Stéphane Powels.
La situation qu'on vit actuellement dans le monde, les investisseurs ont un peu peur aussi d'aller mettre de l'argent dans le football, ou les sponsors, on le voit dans plein de secteurs, parce qu'ils disent la priorité, c'est peut-être pas celle-là, on doit licencier du personnel... Il y a une période économique compliquée, des gens qui sont au chômage partiel. Donc, il faut savoir que le mec qui a envie d'acheter, il faut vraiment qu'il ait envie d'acheter, parce qu'il sait qu'il pourrait être montré du doigt et se faire allumer. Deuxième chose, vous savez, Christian, il n'y a pas qu'en France. Il y a des clubs qui sont à vendre. Je peux vous donner l'exemple de ma petite ville à Moucron, en Belgique. Le club ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'ils veulent faire des fusions, ils n'ont plus un bal. Le partenaire thaïlandais s'est barré. Donc, ça veut dire que le mec qui a vraiment du pognon, il peut acheter il peut faire des bons coups. Oui, il peut faire des bons coups. Est-ce qu'acheter Saint-Etienne, c'est un bon coup? Ça, j'en sais pas. Je connais pas les finances du club. Mais en tout cas, c'est une période propice, c'est comme acheter de l'immobilier, c'est peut-être un bon moment.
Florian Gazan.
Ouais, enfin, je ne sais pas si c'est beaucoup plus propice maintenant qu'avant. La santé financière des clubs, elle est qu'avant de les acheter, il faut quand même que ce soit relativement sain. Quand on voit l'état de Marseille, l'état de Saint-Etienne et l'état de Bordeaux, qu'on soit en période de coronavirus ou pas, moi, franchement, si j'ai de l'argent, j'y vais pas du tout. Enfin, non, personnellement, je n'ai pas envie d'en perdre. Donc,
non, mais il y a des clubs en plus. Ils perdent quoi, 100 millions par...
Un peu moins, 80 millions.
Ouais. Ah, mais vous parlez de Marseille parce que tout le monde sait qui sont à
alors,
la ramasse.
Il faut juste,
mais il y a d'autres clubs.
Il faut juste avec Marseille, avec le président Hérault, qui a donné une interview au site du club cette cet après-midi. Et petite phrase au sujet justement de la rumeur de la vente du club. Voilà ce que dit le président Hérault. Ceux qui agitent le chiffon rouge d'une vente, je ne peux que les décevoir et les renvoyer à leurs fake news. Et tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit.
Moi, c'est clair.
Après, il y a un élément là qu'on n'a pas.
Souvent, quand on tient ce genre de discours, c'est qu'on essaye de masquer. Ce qui est évident, c'est que les actionnaires ne sont pas du même niveau dans les clubs que vous venez de citer. Bordeaux, par exemple, c'est les fonds américains, c'est King Street, je crois que c'est quelque chose comme 18, ça pèse 18 milliards de dollars. C'est une petite marotte, les Girondins de Bordeaux, c'est à la marge. Ça vient.
Sauf que c'est fonds de pension et que c'est l'argent probablement des retraités aux États-Unis, qu'ils ont des comptes à rendre.
Bah, et les fonds de pension, dès que c'est rouge, ça réagit.
Ils ne sont pas là pour perdre de l'argent avec les Girondins de Bordeaux. Et comme ils en perdent et qu'ils gèrent mal.
L'important, c'est la lisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, ils investissent dans un club comme les Girondins de Bordeaux sur plusieurs années pour essayer de faire ce qu'ils veulent tous faire, c'est-à-dire du trading.
Enfin, c'est des allers-retours, généralement.
Et si tu as la possibilité de pouvoir continuer à faire du trading joueur sur les années à venir, ils resteront. Mais si tu n'as plus de visibilité par rapport à un environnement qui est en difficulté, là, il y a la crainte
le problème, il y a plusieurs problèmes dans le foot, c'est que tout le monde pense... c'est comme à la bourse, tout le monde pense que en faisant du trading, ils vont tous gagner énormément d'argent. Et en bourse, les gens ils se jettent en bourse en voyant que tu peux faire des plus-values de folie, sauf que tout le monde gagne pas et que tu peux perdre énormément. Et dans le foot, c'est le cas aussi. Et après, il y a aussi, à cause de cette passion qu'il y a autour du foot, et il y a des clubs où il y a plus de passion que dans d'autres et où les présidents ont plus de pression que dans d'autres, et qui leur font faire des conneries. Parce qu'ils investissent davantage, ils prennent plus de risques, ils payent plus cher pour satisfaire leurs supporters qui veulent avoir du spectacle, qui veulent avoir des résultats. Et du coup, tu te fous dans une situation comptable qui peut devenir catastrophique. Et c'est ça le problème aussi de cette passion dans le foot, c'est que les présidents qui sont raisonnés dans leur métier à côté, ils sont déraisonnables, ils sont pas raisonnables dans le foot.
Il y a à boire et à manger là-dedans, parce que tu peux te dire quand même que Franck McCourt est quand même assez raisonné. Il avait l'intention d'investir 200 millions d'euros de mémoire.
Il a dépassé.
Voilà, mais à peine. À Saint-Etienne, c'est
Christian,
une gestion.
Il me semble, vous parliez, donc moi je vous dis 100, vous parliez de 80 ou 90, tu perds 80 ou 90, il me semble que c'est un problème.
Bien sûr.
Oui, peut être un investissement sur un projet où tu te dis, tu es perdant au début et ensuite...
Avec un effectif où il n'y a pas beaucoup de joueurs, les joueurs sont un peu âgés, les joueurs ont beaucoup de plus-value potentielle.
Il y a un élément important qu'on n'a pas évoqué sur la faisabilité d'un rachat des clubs français. Tu l'as dit, Philippe, actuellement, on n'a pas de visibilité sur la période à venir parce que la crise du coronavirus donne beaucoup d'incertitudes. Il y a un élément qui pourrait rajouter des certitudes qu'on n'a pas en France, c'est une question structurelle, c'est la question des stades. En France, exactement, les clubs ne sont pas propriétaires des stades. Du coup, cette visibilité qu'on pourrait avoir, de se dire, au moins j'achète un club, mais ce n'est pas que du vent, ce n'est pas qu'un actif joueur qui est volatile et qui peut ne plus rien valoir du jour au lendemain. J'ai quelque chose de concret qui est un stade. Ou un centre d'entraînement au minimum. La plupart, 99% ou 95% des clubs français n'ont pas cette structure-là qui leur donne une certaine valeur. Donc déjà,
il y a plus que ça. Il y a les dépendances. La dépendance aussi par rapport aux droits télé. Pardon, mais c'est quoi le pourcentage par rapport, tu prends les recettes, c'est quoi le pourcentage?
Près de 35%.
Des droits télé.
Près de 35%.
C'est peut-être trop important aussi, qui fait qu'à un moment donné, tu es trop dépendante de ça et que tu te retrouves dans des situations comme celle-là en difficulté. Et l'autre sujet aussi, c'est un sujet, moi, que je qualifierais de père de famille, on en parlait un petit peu, mais... Tu vois, avoir un peu des fonds propres, quoi. Pas systématiquement tout réinvestir, tout dépenser. À un moment donné, dans les périodes où ça rigole pour toi, bam, tu mets un peu de côté, t'as des fonds propres et tu peux amortir. Tu vois, je te redis, le problème du foot, c'est pas une activité comme une autre, ça rend fou. Il y a trop de patients.
Il y a des présidents qui deviennent fous.
Et t'es pas raisonnable.
Mais c'est pas tout à fait le cas pour tous ces clubs-là.
Les petits clubs.
La folie à Bordeaux,
ils gèrent plutôt pas mal. Les petits clubs, ils gèrent plutôt pas mal d'ailleurs.
Bordeaux, qui n'est pas un grand club, mais qui est quand même pas un petit club, on va dire, qui est un club moyen. T'as un Américain, c'est un fonds de pension. Il est en train de.
Ça, c'est encore autre chose. C'est des investisseurs américains. Donc on connaît rien et c'est une usine à gaz. Il y avait deux sociétés au Girondins de Bordeaux, une qui s'est barrée parce qu'ils faisaient n'importe quoi, et là aujourd'hui tu as l'actionnaire principal qui gère.
Et David Aiello parlait de l'actif stade, et là tu te rends compte qu'à Bordeaux ils veulent réduire la capacité du stade.
Mais c'est ça qui est surréaliste, c'est-à-dire qu'il a soulevé, David, quelque chose de très important. J'ai franchement la chance d'être deux fois dans des
des rachats de clubs, en tout cas essayer des nouveaux investisseurs. Les deux choses qu'ils demandent, les mecs qui ont de la thune et qui veulent vraiment racheter un club, c'est d'abord le stade. C'est les infrastructures. Et pas que le stade, centre de formation. Ah, à partir du moment, c'est pour ça qu'ils viennent tous acheter en Belgique. Vous savez ce qu'ils font les mairies? Ils disent ça nous coûte trop cher.
Quand
on
tu dis centre de formation, ce sont les installations.
Les installations d'accord. Ils te disent. C'est ce qu'ils font en Belgique. Vous savez, nous, on ne sait plus tenir. Les mairies disent, vous savez, on vous laisse ces infrastructures. Alors, ils te font un loyer 200 000 euros, enfin, mourir de rire. Donc, ça, ce sont la première chose. Et en France, comme dit David très justement, c'est quand même très compliqué. Et la deuxième chose, et là, je rejoins peut-être aussi, certainement, Bichente, c'est pas forcément le capital de ce que les joueurs de l'équipe première valent. Si, ça vaut de l'argent. C'est les jeunes. C'est-à-dire qu'un investisseur, il dit, mais vous avez combien de jeunes, vous? Alors, le mec, il dit 200. Mais combien peuvent éventuellement un jour jouer vraiment en équipe première? Ah, on ne sait pas. Deux, c'est plus facile de racheter un club où tu peux avoir les infrastructures et tu sais qu'il y a un grand centre de formation. Et là, on en revient sur
avec un actif de jeunes
avec
joueurs.
Avec un actif de jeunes joueurs qui peuvent. Parce que c'est ça le pognon.
D'où le trading évoqué par Philippe Sanfour.
Exactement, parce que racheter des jeunes joueurs, vous voyez quand même bien le marché anglais. Combien de fois ils viennent pas chercher des jeunes français à 17-18 ans? Et donc, c'est ça ce qu'ils veulent les clubs. Et pour l'instant, vous parlez de Bordeaux très justement. Bah, excusez-moi, citez-moi. Et Dieu sait que j'aime ce club depuis les 10 dernières années. Le nombre de jeunes du club qui ont explosé à Bordeaux et qu'ils ont fait de l'exponentiel au niveau financier et les infrastructures.
Là, il y a
compliqué.
Peut-être aussi un problème de compétences et d'infrastructures.
Nous sommes d'accord, mais là,
même des Girondins
on parle
de Bordeaux,
de
parce que Bichette ne va pas me démentir, mais je crois que c'est quand même, en termes de jeunes, les ligues aquitaines, c'est une des plus importantes en France. Il y a pléthore de gamins qui pourraient sortir.
Il y a un
effectivement,
énorme potentiel.
À part peut-être aller Trémoulinas sur les 10 dernières années, il n'y a pas un mec qui est sorti.
À Bordeaux, ça ne bosse pas.
En tout cas, il y a des failles dans le filet qui ont été.
Mais non, c'est pas des failles. Le potentiel, il existe des jeunes joueurs dans cette région-là. C'est juste que les investisseurs, quand ils viennent, vous savez, à Marseille, c'était le même. Moi, j'aime bien M. Macour. La première chose qu'il fait, c'est qu'il achète Payet à des prix pas possibles.
Ils veulent 11 vedettes et des résultats tout de suite.
Ils mettent du pognon, ils veulent des vedettes tout de suite, comme dit Christian. Il y a un moment, il faudra peut-être falloir changer sa vision des choses et les investisseurs, peut-être, changer leur politique sportive.
Florian Gazan.
Ouais, enfin, le problème, quand même, reste malgré tout que si tu te poses la question aujourd'hui, qui a réussi vraiment à gagner de l'argent dans le football sur ces 10 dernières années, des gens qui ont acheté des clubs?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. C'est quand même pas un secteur d'activité où tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu sais très bien que tu y vas. Pour en
est-ce
perdre.
Qu'on peut en citer un d'ailleurs?
Non, il y a des clubs qui sont bien
Monaco
gérés.
Monaco a gagné de l'argent.
Ouais, ils ont Monaco, voilà. Parce
sur une saison, on a vu le résultat après.
Parce qu'ils ont fait
on a dit formidable training et l'année suivante, on a dit le training, c'est.
Ils sont un petit peu enflammés. Bien. Depuis 3 ans.
Trading également.
Ah ben écoutez, oui, hein, ils font des jeunes, ils revendent. Et parce qu'il y a.
Mais ils sont extrêmement endettés aussi.
Ils sont endettés parce qu'au départ, M. Lopez, il achète déjà sans argent, avec l'argent des autres, avec des holdings. Mais le mec qui est à. Mendes qui est là fait des plus-values. Alors je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant, ils font du pognon.
Enfin, c'est quand même un peu la roue de la fortune.
Ils font du pognon, mais ils ont beaucoup de choses à rembourser aussi. Donc, il faut voir à la fin. Tu vois ce que je veux te dire?
Il faut voir le calcul dans 2-3 ans, certainement.
Donc, pas avant, pas acheter en statu quo.
Bah, si, il faut acheter.
Est-ce qu'il y a des acheteurs? C'est toujours pareil. Voilà. Le prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a des acheteurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des vendeurs?
Les réseaux sociaux, Baptiste Durieux, le compte @RTLFoot.
Absolument, message d'Axel, pardon, mais cet engouement notamment américain pour la Ligue 1 en pensant que dans 5 ans ce sera la première ligue, je ne comprends pas. Racheter certains clubs de Ligue 1 aujourd'hui, ce n'est pas un bon coup, c'est une manière de perdre encore plus d'argent. Message de Paul également, l'OM peut revendre Payet et Thauvin avec en bonus Camara et Sanson, le déficit ne sera toujours pas comblé comme à Bordeaux où l'équipe joue à huis clos et ça bien avant le Covid. Et puis le message d'Etienne, on n'a pas attendu le coronavirus pour voir qu'à Bordeaux, à Marseille et à Saint-Etienne, ça sent pas les billets violets. Gagner de l'argent dans le foot, c'est plus difficile que de gagner la Ligue des Champions.
Mmh. Oui, mais Christian,
si on met de côté, Stéphane, si on met de côté la vente, donc on écarte la vente de certains clubs malgré leurs difficultés, justement à cause de leurs difficultés financières, il y a deux moyens actuellement de se refaire la cerise. Ce sont les emprunts à l'étranger. C'était la suggestion de Gérard Lopez pour tenter de survivre à la crise et de pouvoir réinvestir pour la suite, hein, parce que la suite est importante.
À quel taux?
Alors,
quel
le Grette
ça peut être une fausse bonne idée aussi.
Le Grette a parlé des acrobates du financement. Il y a également des prêts garantis. Je crois que c'est Philippe Sanfourche qui l'évoquait tout à l'heure, garanti par l'État à 90%. Et ça complète le dispositif.
Oui, mais on va pas se mentir.
Il y a la qualité. Non, mais c'est pas ça.
Je t'entends soupirer, Bichente.
Oui, non, parce que.
Faut bien en prêter.
Je pense que. Oui, mais je pense que ce qui est vraiment important dans les clubs, c'est la qualité des actionnaires. Et tu vois, moi, je trouve que, par exemple, pour prendre l'exemple de Bordeaux. Les actionnaires américains sont arrivés avec une idée de Bordeaux club avec notoriété mondiale. Ouais. Juste parce
avec
que
l'image du vin,
tout le monde
l'image du vin,
juste parce que le vin de Bordeaux est connu partout dans le monde. Mais les gens de Bordeaux, ils sont pas connus partout dans le monde, comme Manchester United, la Juventus ou le Bayern. Donc déjà, cette analyse-là, elle est pas bonne. Et d'avoir une vision internationale, d'avoir une vision locale, moi j'ai trouvé ça...
Complètement d'accord. Ouais.
Pas bien réfléchi, en fait. Parce que Bordeaux a besoin de s'inscrire sur un projet régional, d'avant toute chose. Et après, petit à petit,
avec de la
patience, exactement. Et là, toi, t'arrives et tu fais, attends, je vous expliquer le business, je vous expliquer comment on remplit un stade de foot avec des pom-pom girls et tout ça, tu vois, l'américaine, en donnant des pop-corn. Et à l'arrivée, rien. Et à l'arrivée, ils n'ont pas rempli plus le stade que ça.
Il y a une conjoncture, il y a une situation qui est faite où il faut dire les choses, c'est choquant, il y a aussi de l'argent propre et de l'argent sale. Et vous êtes épargné en France, c'est que ceux qui veulent venir acheter, il y a un jeu financier qui est fait, on parle d'Américains et compagnie, mais il y a eu tout un système depuis 10 ans, Bichent, dans le monde entier, où ce sont beaucoup de pays asiatiques qui sont venus acheter des clubs avec de l'argent, je suis désolé puisqu'il y a des enquêtes maintenant
douteux, on va dire
cela, dans beaucoup de championnats, sauf que ça va changer puisque maintenant ils sont dans le viseur. Qui a ce virus qui va changer beaucoup de choses, c'est que les mecs vont commencer à paniquer de venir investir aux Pays-Bas, parce que je peux vous donner plein de clubs en Belgique, dans ces pays-là. Maintenant ça va être des vrais investisseurs.
Quand je dis des vrais investisseurs, pour le coup, en France on a quand même eu la chance d'avoir été épargné par ça. Il y a aussi une DNCG qui travaille correctement,
mais c'est ce que je voulais en arriver.
Et on s'aperçoit qu'effectivement il y a par exemple les Chinois qui sont rentrés dans le capital de l'Olympique Lyonnais, mais c'est quelque chose d'extrêmement clair.
Mais vous avez la chance.
Et là on a des investisseurs, les derniers en date c'est quand même Radcliffe
ils sont minoritaires, ça change la donne,
et ça c'est quand même des gens sérieux, des gens solides.
Ce qui va arriver, donc je suis positif pour le football français, c'est que je pense que maintenant vous allez avoir des actionnaires sérieux pour tenter venir dans vos clubs, et ce sera pas des mecs où tu sais pas d'où vient l'argent.
Stéphane, que l'argent soit propre, c'est une chose, et on est d'accord que c'est indispensable. Mais ensuite, que les gens qui soient à la tête de ces clubs, on l'a vu à Bordeaux, soient pas des gens qui connaissent le football,
mais c'est dramatique
aussi. Comme l'a rappelé Bichente, fassent des amalgames en disant bon bah tiens, puisque Bordeaux c'est une ville qui est connue mondialement.
Mais David, ça fait beaucoup de critères, ce que tu veux. Tu veux des mecs qui ont de l'argent, des mecs qui connaissent.
C'est indispensable.
Mais bon, c'est le but du jeu. Le problème aussi, c'est que de toute façon, il faut partir du principe que tu peux aussi finir par perdre de l'argent. Un championnat, il y a qu'un seul premier, donc tous les clubs finiront en haut, il y a des clubs qui finiront en bas, qui perdront de l'argent.
Le foot, c'est du casino.
J'achète Toulouse.
C'est
voilà.
du casino.
J'achète Toulouse,
et à ce propos, je voudrais qu'on fasse un tout petit pas de côté. Il n'était pas prévu, mais me vient à l'esprit la situation de Monaco, qui est au régime sec. Là, hein. Monaco, ouais. Avec des dirigeants qui testent les joueurs pour leur demander des baisses de salaire. Je voudrais qu'on mette en perspective l'actualité de Monaco, et peut-être que Stéphane va pouvoir y répondre, parce qu'ils bénéficient, ces joueurs, de régimes fiscaux quand même très avantageux.
Ça fait des années que ça
gueule.
En même
temps qu'ils sont au chômage partiel. Mais c'est le chômage partiel qui vient d'où, du gouvernement monégasque ou du gouvernement français?
Du gouvernement français. Donc ça veut dire qu'un joueur est sous tutelle de la Fédération française de football quand il est joueur de football, et il a des avantages fiscaux. C'est pour ça que
donc avantages fiscaux tout en profitant du chômage partiel venant du gouvernement
mais
français.
Bien sûr, c'est pour ça que tous les autres clubs, et c'est pas nouveau, Christian, ça fait 15 ans que les présidents de clubs qui se bagarrent avec leurs petits moyens,
ça
je parle
revient,
de gagner et ça revient.
Oui, mais ça a été réglé, souvenez-vous, ça a été réglé il y a 3 ans avec une bouchée de pain en disant bon,
ah bah
ça,
ouais, bah, après, ouais. Mais vous avez raison, Christian, parce que ça va encore être un sujet de débat.
Mais on en est sûr, il n'y a pas un régime de remboursement de chômage partiel qui émane du gouvernement monégasque. C'est le gouvernement français.
Moi, j'ai jamais entendu ça.
Baptiste Durieux, les messages sur les réseaux sociaux?
Il n'y a pas de nouveaux messages, Christian, je suis tout à fait honnête.
On va passer sur le football amateur, alors.
Mais oui.
Le football
ça, c'est
amateur.
La bonne communication. C'est la bonne communication.
Après ceci.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Mais on me glisse dans l'oreillette que les messages...
Et comme les masques, il n'y en a pas.
Je suis honnête avec les auditeurs.
Et d'ailleurs, et en parlant de ça, je n'ai pas de masque, donc je ne peux pas faire le test de m'entraîner avec un masque, Christian.
Mais tu vas chanter.
Pour revenir sur l'autre défi de m'entraîner, pour voir ce qu'on peut
s'éviter. Ah, après tu la mets guitare, un bandana comme Christine.
Voilà, après la guitare, tu pourrais te mettre à la couture et te fabriquer ton propre masque aussi. Hein.
En revanche, les amis, des messages...
J'ai réfléchi.
Sans doute sur le football amateur, car c'est une actualité quand même extrêmement concernante. Alors là, c'est arrêt buffet pour le football amateur, à l'exception du national, qui est l'équivalent pour tous ceux qui nous écoutent, hein, de la 3e division, et à l'exception, pour l'instant et pour l'instant seulement d'ailleurs, de la 1ère division féminine. Pour tous les autres, arrêt buffet, en date du 13 mars, tous les matchs qui ont été joués avec une usine à gaz pour le calcul. Vraiment pour le calcul des équipes qui montent, qui descendent, etc.
Ça va être terrible. Ça va être terrible parce qu'il y a des clubs qui jouaient la montée. Je pense à Boulogne-Billancourt, qui vont pas pouvoir monter. Ils sont troisième, donc ça crée des frustrations.
Alors, voilà, pour le grand public, on explique en deux mots. Tu te retrouves avec une équipe qui est première de son classement au nombre de points et avec un nombre de matchs supérieur au deuxième, eh bien le deuxième peut te passer devant à la faveur du match que l'équipe n'a pas joué, mais avec un dispositif mathématique.
Ça, c'est très agaçant.
C'est très agaçant. C'est terrible. Et puis surtout,
le match n'est pas joué, donc tu considères que tu l'as gagné. Alors
mais il y a un quotient qui a été pondéré.
Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on vient depuis 10 minutes de parler d'argent dans le sport de haut niveau. Mais là, le football amateur, c'est encore pire ce qui va leur arriver parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens. Pour trouver des partenaires, c'est de plus en plus compliqué depuis 10 ans. Même les agences, les grosses agences intermédiaires, ne s'en occupent quasiment même plus parce que c'est compliqué. Mais ils vont crever. Hein. Il faut oser dire les choses. Et la moitié du football amateur va souffrir terriblement. Et je dis le mot crever parce qu'il y en a qui vont déposer le bilan. C'est vraiment dramatique. Alors la faute à qui ? J'en sais rien. Moi, si c'est la faute à qui, c'est la faute au virus, le premier. Mais sportivement parlant, il y en a qui ne vont pas se relever parce que vous pensez bien, Christian, que quand vous êtes aussi à ce niveau-là, vous avez mis un petit peu plus d'argent que les autres pour monter en pensant que vous allez avoir une équipe compétitive. Vous trouvez troisième, vous ne montez pas pour ces calculs-là, vous avez les boules. Hein. Et pour repasser derrière une deuxième, une troisième saison, à ce niveau-là, on ne peut pas se rater.
Alors, il y a l'association du football amateur qui est présidée par, de mémoire, c'est Eric Thomas, hein, qui dit regrouper environ 3000 clubs, qui envoie des courriers de partout, hein, aux ligues, à la fédération, au ministère, sans réponse. Mais moi, je peux vous annoncer qu'il va y avoir des recours devant les tribunaux.
Hein. Casse,
ah, mais c'est certain. J'ai sous les yeux une note confidentielle d'une ligue qui, tout de suite, sort le parapluie. Je vous la lis. Une note de la direction juridique va être émise prochainement afin de préciser les aspects réglementaires et les modalités de mise en œuvre. Par ailleurs, si nous rencontrons des problématiques ou des cas particuliers, il faut les faire remonter très rapidement auprès de la Ligue du football amateur qui les étudiera au coup par coup.
Mais Stéphane, tu disais il y a quelques instants, à qui la faute ? Il faut quand même rappeler que depuis plusieurs années maintenant, l'État a décidé de diminuer les subventions pour les clubs amateurs. Quand on sait aujourd'hui le rôle social hyper important, même pour ne pas dire capital, dans certaines zones des clubs de football, où c'est un petit peu le dernier repère social, justement, l'endroit où on va pouvoir, je ne sais pas dire, en tout cas, voilà, encadrer certains jeunes, et qu'on se dit, bon, bah, finalement, ces clubs-là, bon, bah, on peut peut-être faire l'économie de les subventionner. Dans la situation actuelle, bah, la faute, voilà.
Non, mais la fédération fait quand même.
La fédération,
mais je parlais du ministère des Sports.
Le gros contrat qui a été re-signé avec Nike, pour ne pas les nommer, sur l'équipe de France, il y a une bonne partie qui est reversée pour le football amateur. Il faut aussi remettre les choses dans un contexte. Et finalement, on s'aperçoit que ce ne seront peut-être pas les plus petits clubs qui vont surtout être en grande difficulté. En fait, ceux qui souffrent énormément sont ceux qui sont juste en dessous, c'est-à-dire par exemple le National 2. Parce que le National 2, moi je sais que j'ai eu par exemple le président du club d'Angoulême qui est en National 2, typiquement c'est un budget annuel d'1 400 000 euros, c'est 29 salariés, c'est une petite PME en fait. Et là,
ça,
du jour au lendemain, Tout est coupé.
Ça, c'est
et il y a les seules rentrées d'argent, c'est pas trop la billetterie, c'est pas trop tout ça à ce niveau-là. C'est quoi ? C'est les sponsors locaux, les sponsors régionaux, et elles sont toutes à l'arrêt définition.
Bien
donc il y a plus rien qui rentre. Et là, on est vraiment dans une problématique très compliquée. Et ces présidents, ces responsables en appellent justement au football professionnel parce que. On m'a dit, voilà, ça sert à quoi de toucher 1 100 000 000 de médias pros si c'est pour que tout le monde crève en dessous ?
Philippe, sur le 32-10,
il faut que ça redescende,
nous
que ça ruisselle.
Mathieu qui est un joueur de Chambly, l'équipe réserve de Chambly, je crois. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci
bonsoir.
De nous rejoindre Mathieu. Alors, la situation,
merci à vous de m'accueillir.
La situation de Chambly, équipe réserve, elle est symptomatique de ce qu'on en expliquait tout à l'heure. Sauf que ce n'est pas pour la montée, mais c'est pour la descente. Vous êtes avant-dernier ?
Oui. C'est ça, tout à fait, on est avant-dernier, et quand on a appris ça, c'est sûr que c'était un coup dur, parce que c'est forcément plus sympathique de jouer en National 3 qu'en Régional 1, donc c'est vrai que c'était un coup dur pour toute l'équipe.
Et normalement, il n'y avait que le dernier à descendre, on est bien d'accord ?
Normalement, non, normalement, logiquement, c'était les 3 ou 4 derniers, ça dépendait aussi du parcours de 50 ans National 2, donc voilà, et là c'est les quatre derniers de notre poule qui descendent.
Et qu'est-ce qui s'y dit à Chambly sur le foot amateur ? Alors, on connaît Chambly effectivement en Ligue 2, mais toutes les équipes et la réserve de Chambly, c'est dramatique sans aucun doute pour le foot amateur.
Forcément c'est dramatique parce que même vis-à-vis des professionnels qui redescendent, c'est sûr que c'est pas la même intensité et ça les prépare pas de la même façon. Donc c'est vrai que tout le staff de l'équipe professionnelle n'est pas ravi de cette décision. Et,
Mathieu,
et bien, sûrement...
c'est Mathieu.
Oui.
Hein.
Oui.
Mathieu,
oui,
je peux te poser une question parce que je sais qu'elle peut être désagréable, mais ça existe dans le football amateur. Est-ce que tu es rémunéré pour jouer ?
Oui, je suis rémunéré.
Est-ce que je peux savoir vraiment, c'est juste pour se rendre compte de l'économie d'un club.
Bah, c'est délicat. Enfin, bon,
non, mais c'est pour savoir l'économie d'un club. Pardon ?
Après, tout dépend un peu.
Plus ou moins, la fourchette, je ne demande pas ce que toi tu gagnes, mais dans votre club, plus ou moins.
C'est pas plus de 600 euros pour la réserve.
D'accord. Mmh. Mais donc ça veut dire par là que ça génère X joueurs, il faut les trouver.
Bah, c'est une petite économie.
C'est une petite économie.
Et tu n'as pas que la buvette. Hein.
Et voilà, c'est très justement les
sponsors locaux.
Voilà, et donc c'est pour ça aussi que je pense que, pour reprendre David, si Madame la Ministre nous écoute, je pense aussi que des sports, il va falloir aussi faire quelque chose parce qu'il n'y a pas que le foot, c'est que souvent dans ces villages-là, il y a la boulangerie, il y a les petites surfaces, mmh. Tout le monde y participe. C'est dramatique.
Il y a un fonds spécial qui doit être voté dans les semaines qui viennent à la fédération pour venir en aide au football amateur. Mais on ne connaît pas encore le montant.
Les réseaux sociaux, Baptiste. Merci Mathieu, merci beaucoup.
Merci Mathieu.
La réaction de Loïc, notamment, comprendre le dispositif de montée et de descendre dans le championnat, c'est comme la Ligue des Nations, on n'y comprend rien. Message de Louis également, je trouve ça vraiment cruel, le football amateur est bradé, j'ai presque envie de dire comme d'habitude. J'aimerais que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et puis le message de Flavien, le football amateur a tout perdu. Il est temps de reconsidérer la 3e et la 4e ligue et de peut-être les rendre professionnels comme c'est le cas en Angleterre et en Allemagne.
C'est une suggestion. Football, oui, pourquoi pas.
Ouais, c'est le foot qu'on aime aussi.
Est-ce qu'on a les moyens ?
Il faut qu'il y ait du public.
Pardon, Michel,
est-ce qu'on a les moyens ?
Ouais.
Et puis en Angleterre, c'est professionnel, mais les stades sont tous pleins et c'est pas des petits stades.
Hein, c'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'il faut l'aide du politique. Il faut, comme dit, les partenaires comme Nike qui font des efforts et il faut que tout le monde se mette autour de la table.
On fait
il faut
le match avec Stéphane Powell, c'est intarissable, avec David Aiello, avec Florian Gazan, Philippe Sanfourche et Bichente Lizarazu qui nous prépare son petit bœuf de fin d'émission, bien évidemment. À la guitare sèche et au chant.
Allume le feu, Christian. Et j'étais pas scout, hein.
Je voudrais que... j'ai ajouté scout, effectivement, sur Twitter. Je voudrais qu'on puisse juste retrouver Antonio de Bordeaux tout à l'heure, qui on parlait du foot business, du foot des clubs à vendre. On a oublié Antonio, je voudrais qu'il nous donne son avis quand même. La publicité dans l'immédiat, Antonio sur le foot business, les clubs à vendre, et ensuite autant de sujets qui risquent de mettre le feu au débat, avec notamment, bien sûr, Neymar à Barcelone, rien d'impossible. Les supporters doivent-ils être remboursés ou doivent-ils disposer d'un simple avoir pour la fin de la saison? Florian Maurice de Lyon à Rennes, nouveau directeur sportif. Est-ce que ça change votre vie? À tout de suite.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
Le match depuis 18h30, on parlait tout à l'heure du calendrier. On joue quand ? Les clubs, quels sont les clubs qui seraient à vendre ? Ou le football amateur peut-il s'en remettre ? On va balayer maintenant le reste de l'actualité. Mais sur le foot et business et les clubs à vendre, j'aimerais qu'on entende Antonio de Bordeaux. Bonsoir Antonio.
Bonsoir messieurs.
Oublier tout à l'heure pour justement cette question. Est-ce qu'il y a des clubs à vendre ? Pardon Antonio.
On garde toujours le meilleur pour la fin.
Alors,
bonjour déjà.
Antonio. Parce qu'on a beaucoup parlé de Bordeaux, on a beaucoup parlé de l'actionnaire et on a beaucoup parlé du stade à Bordeaux.
De Bordeaux.
C'est fou ça.
Je voulais juste envoyer un petit bonjour bien particulier à Bichente.
Salut
on
Antonio.
Est de la même génération, si tu veux, Bichente, donc je peux me permettre de tutoyer.
Ah, tu chantes aussi.
Et merci pour tout. Merci. Non, je ne chante pas, mais si. Non, s'il veut bien, je veux bien l'accompagner aux castagnettes, s'il veut. Vu que je suis d'origine ibérique, je veux bien l'accompagner. Non, je voulais juste vous poser deux ou trois questions. La première, c'est que fait la FIFA ? La FIFA, c'est une structure qui gère 4 milliards de dollars d'argent. Pourquoi la FIFA n'aide pas les clubs dans le monde entier ? Deuxième question, pourquoi aujourd'hui on voudrait reprendre le championnat, sachant que dans un an, on a une Coupe du Monde qui se passera en hiver, de mémoire de novembre à décembre. Pourquoi on ne décale pas, on attend, parce qu'on est d'accord, tous d'accord, que le principal, c'est la sécurité sanitaire des gens. Pourquoi on ne décale pas, on reprendra, on finira cette saison en étant sûr qu'il n'y ait aucun problème, ni pour les joueurs et les différents acteurs, et pour les spectateurs. On décale la saison d'après un peu plus tard, comme ça, pour la saison où est-ce qu'il y aura en Coupe du Monde au Qatar, on sera à peu près dans les clous. Mmh. Et concernant le football amateur, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de prendre la moins mauvaise des solutions. On ne va pas prendre la meilleure. Mais aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas citer un club, mais c'est un club de National 3 ici, de la région d'Aquitaine, pour vous dire, les gars, au niveau financier, ça va être compliqué. En 3 mois, ils ont évalué une perte de 50 000 euros. 50 000 euros, c'est énorme pour un club de National 3.
Bien sûr, bien sûr.
Donc alors, aujourd'hui, que fait la FIFA ?
Alors Antonio pose la question, que fait la FIFA ?
On peut répondre déjà que
David Aiello.
En tout cas, c'était une information du New York Times il y a 2 semaines. A priori, la FIFA bosse sur un fonds pour en venir en aide aux fédérations, c'est-à-dire distribuer environ un peu plus de 2 milliards de dollars aux fédérations qui ensuite redistribueront aux clubs. Pour l'instant, c'est toujours dans les cartons.
Au sein de la fédération,
ils ont des fonds propres.
Oui, ils ont des fonds propres. Après, la politique de la FIFA, même si Dieu sait qu'il y a eu des scandales et des soucis liés à des agissements personnels douteux, mais sinon, globalement, la politique de la FIFA depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est de beaucoup investir en Afrique, en Amérique du Sud, dans des endroits où les fédérations sont déjà extrêmement pauvres à la base.
Ouais, et où le football n'est pas développé aussi.
Et voilà, et où il faut développer le football sur des territoires où il n'y a pas de relais autre que la FIFA. Là, on peut imaginer que les pays occidentaux, en Europe, là où les championnats sont les plus importants, où les droits TV sont les plus importants, c'est peut-être pas à la FIFA d'aller venir injecter de l'argent dans le football amateur de la France, de l'Allemagne ou de l'Angleterre.
La connotation politique de Florian Gazan également aussi. Tu récupères plus facilement des votes.
Quand tu mets de l'argent là où il y en a besoin beaucoup.
Oui, mais après, ceci dit, la FIFA a besoin de fédérations fortes. Donc si les fédérations sont en difficulté, la FIFA va venir les aider. La FIFA a aucun intérêt à garder son
trésor de guerre.
Je suis très très inquiète aujourd'hui pour le développement du football féminin, puisqu'on était dans une phase d'expansion importante, et ils ont la crainte surtout que ça vienne stopper cette phase d'expansion.
Mais quand tu vois la situation du football amateur en France maintenant, effectivement, le football féminin s'inquiète. Moi, je pense aussi, tout à l'heure, on parlait des présidents de clubs, tout ça, mais je pense que les présidents de région aussi, hommes politiques, doivent aussi aller au créneau. Je pense que les politiques doivent aussi aller au créneau pour défendre leur petit club de leur région. Moi, ça me fait toujours rire. Il y a des présidents de région, ils ne défendent que le grand club qui est en Ligue 1.
Malheureusement, Stéphane,
il y a autre chose
sur d'autres priorités.
Nous sommes d'accord, mais je ne te parle pas de ce qui se passe maintenant. Je pense que depuis des années, moi, je connais des présidents de région qui aiment bien aller en VIP et bouffer des petits fours dans le grand club en D1.
Et d'être sur la photo
que d'aller aider le plus petit club. Donc, je ne parle pas de ce qui se passe maintenant. Je parle de la culture.
Christian, sur le calendrier, par rapport à ce que disait Antonio.
Deuxième question d'Antonio. Pourquoi reprendre dès maintenant alors qu'on peut tout décaler et que la Coupe du Monde a lieu en hiver?
La question, c'est comment tu fais avec l'Euro, parce qu'il va se retrouver au milieu d'une saison, donc pas si simple à gérer non plus. Donc c'était une idée qui a été développée, c'est une réflexion de se caler sur la Coupe du Monde au Qatar, mais en même temps l'Euro en plein milieu
et les JO,
j'ai du mal à le voir.
Et donc là, chez les amateurs, la solution la moins mauvaise qui veut, c'est la moins mauvaise, mais enfin bon. On verra les dégâts après.
On peut aussi se dire pourquoi est-ce que le football professionnel se dit nous on attend pour voir ce qui va se passer et qu'on arrête d'un coup sec les amateurs. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir une sorte d'accord pour que tout le monde marche du même pas? Parce que finalement, si ça reprend dans un mois le football professionnel, les amateurs vont dire quoi? Bah non, on aurait pu reprendre aussi.
Non, parce que par définition, les district leagues, les types travaillent. Hein. Ouais. Au mois de juillet, ils vont partir en vacances.
Il y a cette notion-là, et par rapport à la question centrale, qui est la question de la santé, la question sanitaire. Moi, tous les dirigeants de clubs amateurs que j'ai eus avaient tous en tête la responsabilité aussi juridique par rapport au fait que si demain vous faites rejouer 50 gamins et que vous en avez une dizaine qui reviennent malades et que ça se transmet et que dans la famille il y a quelqu'un qui décède,
mais
faut peut-être quelle responsabilité de la part des gens qui ont réorganisé des rencontres.
Et pour le football amateur, je peux te dire que par définition ils sont amateurs, le boulanger, l'employé d'assurance, etc. Il a d'autres préoccupations actuellement. C'est-à-dire que lui, son occupation, c'était de jouer le dimanche, effectivement, et d'avoir deux entraînements par semaine.
Ah non, c'est de manger.
Là, pour l'instant, c'est de bouffer. Hein.
Ouais, mais par contre, ça peut être cette période-là, encore une fois, dans le mal, il peut y avoir du bon. C'est peut-être l'occasion, justement, de se remettre tous autour de la table au niveau du football amateur, tous les acteurs. Et j'en reviens aussi, Christian, vous avez reçu le message du président des amateurs du LOSC, hein, qui s'appelle Patrick Robert, et repenser aussi, on en parlait en coulisses aussi entre nous, sur ce championnat de réserve de Ligue 1, puisque généralement les équipes deuxièmes sont, d'ailleurs le LOSC va descendre par rapport à ce qui se passe, de peut-être repenser aussi même le sport de haut niveau pour les... Parce qu'un jeune qui joue au Paris Saint-Germain ne peut pas se retrouver, il est prêt à jouer en équipe première, ne peut pas se retrouver dans des matchs en bois sur des champs de patates, quoi. Il faut vraiment... Mais non, mais c'est vrai.
Non, mais vous ne compliquez pas les débats, Stéphane, parce qu'on part sur tellement de sujets. À un moment donné, il faut.
Les sujets sont bons. Tiens, justement, on va garder Antonio. Il a peut-être. Antonio, il va au stade à Bordeaux ou
Tout à fait. Justement, je voulais rajouter. Alors, on s'aperçoit que depuis qu'on a changé de propriétaire, le taux de remplissage du stade qui est énorme, même si je vous accorde qu'on a changé du parc Lescure, enfin de Chaban-Delmas au Matmut Atlantique, on a perdu 12% au niveau du taux de remplissage. Je pense aujourd'hui que la meilleure solution, et Bichente, tu seras d'accord avec nous, je pense qu'il faut mettre les personnes les plus compétentes aux places les plus importantes. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut reprendre le club de Bordeaux, déjà, il sait qu'il a 25 à 30 millions de déficit à combler.
Si c'est pas plus.
Est-ce qu'aujourd'hui... Pardon ?
Si c'est pas plus.
Si c'est pas plus, je suis d'accord avec
toi. C'était le cas avant déjà la crise et le fait qu'il n'y aurait pas au moins 10 millions d'euros.
Il faut aussi que tes actionnaires, excuse-moi, ont la culture du club, parce que je pense qu'ils ont pris comme un peu parrain du club Jean-Pierre Papin, alors que vous avez des girets. Excusez-moi, mais il y a un moment, il faut que les repreneurs aussi.
On ne va pas faire une heure sur les Girondins de Bordeaux, les amis.
On
va
rester.
On n'est pas loin.
Je veux juste terminer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord, et ce que disait Michente à juste titre, aujourd'hui, le club de Bordeaux, on n'a pas de gros moyens. Donc, ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur une politique de formation et de jeunes, avoir quelques stars, une ou deux stars qui permettent d'avoir des têtes d'affiche. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui aux Girondins. On sait très bien qu'on ne sera jamais un club comme Paris, comme Marseille, avec des gros budgets. Mais faisons aujourd'hui...
C'est un problème d'identité, vous avez. Vous manquez d'identité, malheureusement, alors qu'il y en avait une grosse avant.
Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Mais pourquoi aujourd'hui, comme il disait Michente, on est je crois qu'on est la plus grosse ligue, la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grosse ligue de France. Mmh. On a un potentiel énorme. Moi, je suis sur les stades tous les week-ends. Mmh. Je peux vous dire que je vois des super bons joueurs. Pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas donner la chance à ces jeunes?
C'est la question qu'on posait tout à l'heure avec les actifs, effectivement, du centre de formation.
Bichente, président.
Merci beaucoup, président. Antonio. Derrière la publicité, les amis, deux, trois questions d'actualité. Les supporters remboursés, Neymar à Barcelone, Benzema, je reviendrai à Lyon, Florian Maurice à Rennes. Et ensuite, donc, Bichente Lizarazu, guitare sèche, chant.
Live.
Aux environs, donc dans une dizaine de minutes. Hein. Ouais. Ça va durer combien de temps? 5-6 minutes quand
même.
En fait,
il le répète à chaque fois pour me préparer à ça, en fait.
Il y en a pour 5-6 minutes, Bichente, non? C'est
non, 5-6 minutes, non, c'est pas si long.
Pas
si je fais une... Non, écoute, je sais pas, c'est une version.
C'est
une version.
Tu nous fais pas du lalan, hein, pas une heure. Hein.
Non, je te rassure.
Allez, la publicité.
Il y a combien de téléspectateurs en moyenne? De téléspectateurs, d'auditeurs sur RTL en moyenne?
Denis Balbir. Denis Balbir, en moyenne.
Que je sache, parce que j'ai besoin, tu sais, d'avoir un peu la pression.
Je vais répondre très précisément à ta question. Denis Balbir réunit en moyenne, en audience cumulée, pas loin de 583 000 auditeurs chaque samedi soir.
583 000 auditeurs qui vont m'écouter.
C'est qu'ils savent qu'il y a des multiplex derrière.
J'aime bien rentrer dans un stade plein. J'ai toujours joué dans des stades pleins, avec une grosse ambiance. Donc 500 000 auditeurs.
D'une saison de Bordeaux.
Et ça fait 15 ans que j'ai pas joué de guitare.
Et il y a combien de spectateurs sur 10 matchs?
C'est 10 ans.
Non, mais sur 10 matchs, une journée de championnat, les amis. Il n'y a pas 583 000 personnes?
Non.
Sur une journée de championnat, c'est 200.
Bah oui.
223 000.
Deux journées de championnat.
Incroyable.
Allez, la publicité.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Restez avec nous, restez confinés, soyez prudents, prenez soin de vous et partagez cette fin d'On refait le match avec David Aiello, Stéphane Powels, Florian Gazan, Philippe Sanfourche et bien sûr Baptiste Durieux sur les réseaux sociaux qui collectent tous vos messages. La soirée sur RTL est loin d'être terminée. Après 20h, vous retrouverez Laurent Boyer qui reçoit ce soir
Bichette Elizarazu.
Laurent Gérard.
Pour parler musique.
Dans une dizaine de minutes, The Voice. Bichente, Lizarazu. Messieurs, les supporters remboursés, où auront-ils un avoir? Bon, la saison, on se place dans un cas de figure, évidemment, où, quel que soit d'ailleurs ce cas de figure, saison annulée, plus de matchs les 10 dernières journées à la trappe, ou pour certains qui ne pourront pas, de toute façon, assister au match, et de toute façon, les matchs auront lieu à huis clos. Donc, ma question annulée et non avenue, finalement.
Un avoir. Un avoir, question. Quoi qu'il en soit, ça sera une perte pour le club parce que ce sera en déduction de l'abonnement l'année prochaine.
Ça calmera un peu la trésorerie actuelle.
Oui, ça limite la casse, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une perte.
Donc un avoir, tu dis, comme pour les agences de tourisme, pour les hôtels,
c'est le choix. Ça serait l'idéal,
l'un ou l'autre, non ?
Peut-être qu'il faut
laisser le choix aux supporters. Est-ce qu'ils veulent un remboursement parce qu'ils en ont besoin, ou quelque part aider leur club, parce que demander un avoir pour le club, ça sera plus avantageux.
Tu laisses, mais tu fais un bon prix pour la saison prochaine.
Florian Gazan.
Non, mais il faut, le client est roi, comme on dit, il faut laisser la possibilité aux gens de faire ce qu'ils veulent, parce que évidemment chacun a des problématiques, au-delà de l'envie de suivre son club, de l'aider, de le supporter, peut-être que cet argent-là, tu en as besoin en ce moment.
Le client est roi, le gouvernement a pris une ordonnance pour le secteur du tourisme, ou pour les avions, mais surtout en tout cas pour les voyages hôtel, tout compris, etc. C'est un avoir et ce n'est pas un remboursement.
Oui. Hein. Ouais, moi, donc, mais là, c'est le cœur de métier de l'agence de voyage, du voyagiste. C'est ce qu'il fait, c'est l'essence même de son activité. Alors que la gestion des abonnements sur l'ensemble d'une saison pour un club de Ligue 1, c'est un peu à la marge quand même.
Ah, c'est un poste quand même important, la billetterie.
Non, mais c'est surtout un poste important. Et Florent a raison.
Ce qui est important, c'est la billetterie événementielle pour les grands matchs, les hospitalités, tout ça. Mais les abonnés, on sait très bien que c'est plutôt un enjeu par rapport à un enjeu d'image, un enjeu pour asseoir, justement, on parlait d'ancrage régional, c'est d'avoir le plus d'abonnés pour avoir une atmosphère, pour avoir quelque chose. Mais si vous prenez le montant des abonnements sur l'année, que vous le divisez, c'est pas grand-chose.
C'est pas grand-chose, mais sauf ce que dit Flo, c'est que un supporter, il doit aussi vivre, et donc il est en ce moment en période plus compliquée. Par contre, je ne suis pas d'accord avec Flo, c'est que imaginez la logistique aussi pour aller rembourser et tout ça, 30% de cet abonnement. Moi, j'irais plutôt sur faire un prix, mais vraiment.
Cadeau
pour la saison prochaine et avec
cadeau.
Mais Stéphane, là,
mais 50%,
c'est en déduction. L'avoir, c'est en déduction. Donc voilà, c'est simple, c'est en déduction.
Ouais, mais tu as le supporter qui veut peut-être récupérer du cash.
Je pense que c'est l'intérêt des clubs d'avoir cet avoir-là.
Bien sûr.
Après, la relation entre les supporters et leur club, c'est une relation passionnelle. C'est une relation. Il y a quelque chose de plus que simplement un rapport client.
Je pense que le supporter, il va vouloir récupérer de l'argent. Plutôt que de récupérer son abonnement en Ligue 2.
Ça s'enchaîne, Christian, ça s'enchaîne. Mmh. Je pense que franchement, ça peut se jouer, ça peut bien se jouer.
David Aiello.
Non mais Stéphane, tu étais là derrière ton micro sur RTL et tu nous expliques que les clubs, là comme ça, en claquant des doigts, doivent faire un cadeau à tous leurs supporters. On vient d'expliquer pendant une demi-heure que les clubs étaient
Tu n'as donc pas écouté Philippe Sanfourche qui vient t'expliquer. Tu ne l'as pas écouté puisqu'il vient t'expliquer que la partie abonnement est quand même dans le budget d'un club tout à fait minime. Donc ce que je ne vais pas faire du populaire.
Anime par exemple, qui est un club que je connais bien, je peux te dire que la billetterie ça compte.
Là vous êtes tous en train de m'attaquer, mais je vais quand même vous répondre, je vais défendre un peu les clubs.
Alors
aussi, vous pensez, non même à Lyon, si vous pensez qu'en ce moment à Lyon ou à Paris on va aller commencer à tous les abonnés d'aller envoyer un petit chèque de 127 euros, alors je comprends que c'est important pour les gens qui en ce moment sont en difficulté, c'est absurde et surréaliste. Moi je préfère qu'on fasse un grand geste en disant aux supporters du Paris Saint-Germain, eh bien l'année prochaine vous allez payer que 65% de votre salaire.
Il n'y aura pas de petite économie. D'ailleurs, ça me fait penser que à l'époque où je collaborais avec Jacques-Henri Hérault, une fois il m'avait convoqué dans son bureau, il m'avait dit: tu sais David, il n'y a pas les petits cours d'eau font les grandes
rivières. Il a bien prouvé, ça a bien marché.
C'est des belles formules, mais dans le foot, c'est pas facile à appliquer.
À Marseille, c'est plutôt le contraire. C'est des grands cours d'eau qu'on fait une petite rivière.
Dans le foot, de toute façon,
les amis,
c'est bon, ça marche pas tout ça.
Un autre club qui a surprenamment des difficultés financières, c'est Barcelone. Et Barcelone, pourtant, pourrait s'attacher encore. On en parle. Des services de Neymar.
Surprenamment, ils font n'importe quoi depuis 10 ans.
Ils font n'importe quoi depuis quelques années.
L'ex-vice-président de Barcelone, qui a été écarté par Bartomeu la semaine dernière, a donné une interview dans l'équipe cette semaine et il dit que pourquoi pas. Neymar à Barcelone, pourquoi pas.
Mais bon, Christian, il n'est pas là pour mettre un peu le souk. Là, il s'est fait sortir du truc. Bartomeu, il a voulu montrer que c'est lui le boss. Le vice-président, il fait une déclaration qui ne veut pas dire grand-chose.
Si, parce qu'en sous-texte, il parle de déflation du marché des transferts, qu'il y aura donc des affaires à faire.
Je trouve que Barcelone, de façon assez étonnante, parce que c'est un club qui gagne énormément d'argent, mais écoute, visiblement, ils payent énormément aussi leurs joueurs. Je ne crois pas qu'ils aient les moyens de faire Neymar.
Voilà. Non, mais puis surtout, pour pouvoir faire Neymar, il faut déjà que le club soit vendeur. Ça fait quand même 3 ans qu'on voit que quand Paris ne veut pas vendre, Paris ne vend pas, en tout cas pas à son prix. Donc là aujourd'hui on n'a aucune certitude que le Paris Saint-Germain puisse vendre.
Ça s'est pas fait l'été dernier dans un environnement économique qui tenait la route. Donc dans celui que l'on va connaître là, il y a encore moins de chances que cela se fasse, sachant que Neymar ne souhaite toujours pas s'asseoir sur l'argent, les droits d'image que lui doivent encore le Barça.
Il est en procès d'ailleurs,
sachant que s'il a quitté parce qu'il soi-disant qu'ils sont les meilleurs amis du monde, mais il ne faut quand même pas oublier que si Neymar a souhaité quitter le Barça, c'est parce qu'il était dans l'ombre de Messi. Et je n'ai pas l'impression qu'en ce moment, Messi ait une perte d'influence au Barça. Loin de là, le départ de votre ami le vice-président
est encore
une nouvelle illustration. Donc, pour moi, il n'y a pas un seul élément qui va dans le sens d'un retour de Neymar au Barça.
Et puis Paris n'a peut-être pas forcément envie de vendre.
Hein. Et en plus, Neymar est très content de ce qui s'est passé, la qualification contre Dortmund, parce qu'il c'est un gamin, je l'ai toujours dit, il a 14 ans dans sa tête. Donc, quand ça ne se passe pas bien, qu'il se blesse au pied, pour lui, Paris, c'est l'enfer. À partir du moment où il bat Dortmund à huis clos et qu'ils font la fête avec Di Maria derrière, ça y est, c'est génial, on repart pour 10 ans.
Ce que son papa a confirmé d'ailleurs cette semaine lors d'une interview qui était très bien à Paris. Puis en plus, Barcelone, c'est bien beau de vouloir acheter Neymar, mais ils vont retrouver par exemple Coutinho qui va revenir comme une fleur. Il va falloir s'en débarrasser. Ils ont quand même aussi des actifs joueurs à gérer Barcelone avant de penser à acheter.
Et puis ce coronavirus va peut-être bien aider le Paris Saint-Germain, puisque comme on est dans des prix surréalistes, tout le monde va rester.
Voilà. Benzema.
Et qu'est-ce qui se passe?
Alors Benzema, cette semaine, devant les micros et les caméras d'OLTV, dit « Je vais revenir à Lyon, j'ai envie de revenir à Lyon ».
Il a acheté une maison,
Christian. Voilà. La question derrière qui manquait, c'est Lyon.
Devant les caméras, t'as tout dit, Christian. T'as tout dit, devant les caméras d'OLTV.
Il revient à Lyon, c'est-à-dire
que je vais du karting. Tu vois, il va...
C'est de la com?
Il flatte. Oui, c'est de la com.
Mais dans quel but, là, pour le coup?
Écoute, c'est pour dire qu'il les aime toujours. Que, voilà, ça ne coûte rien. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne coûte rien, en effet. Ouais. Mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Ouais, c'est comme si Bichène va à la télévision du Bayern et qu'il disait là-bas qu'il a acheté une petite maison à Munich. Là, pour...
Après, ce qui est factuel, c'est que Karim Benzema, il a 32 ans et qu'il a récemment re-signé pour 3 ans. Donc, il est, en théorie, engagé jusqu'à 35 ans au Real. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde sa carrière, ce qu'on ne peut pas lui reprocher à Karim Benzema, c'est d'être une girouette. C'est-à-dire qu'il a commencé, il a explosé à Lyon, et ensuite, il a deux clubs dans sa vie. Donc, quand je ne le vois pas passer 32 ans avec ce qu'il a connu au Real, du jour au lendemain,
partir
sur des destinations exotiques ou quoi que ce soit... Donc, peut-être qu'il peut avoir l'envie sur une dernière année, 35 ans, de faire une saison.
Merci Philippe de saluer la pertinence de cette question.
Ce serait chouette avec Giroud, quoi.
Florian Maurice de Lyon.
Tant qu'il peut continuer à jouer au Real et qu'il peut être titulaire au Real, qu'il reste au Real le plus longtemps possible.
Ça évitera des pages dans le journal L'Équipe.
Florian Maurice, et non pas Florian Gazan, donc. Florian Maurice de Lyon à Rennes, poste de directeur sportif. Alors, est-ce que ça vous fait réagir? Parce que dans la foulée de Florian Maurice, on parle de son adjoint, Jérôme Bonicel.
Oui, je connais ces gens-là, et je pense que Bichente connaît bien Jérôme Bonicel aussi. Moi, j'ai deux choses positives à dire. Je pense que M. Aulas, c'est un peu indécent quand il dit que Florian Maurice.
Je ne le connais pas si bien.
Vous avez entendu ce qu'a dit M. Aulas? Il a dit je pense qu'après Lyon, il serait allé à
Paris ou Barcelone.
Ouais, voilà, Barcelone. Je pense que Rennes est un très bon choix. D'abord pour deux raisons, c'est que Florian Maurice, quand il a arrêté sa carrière, il a vraiment fait du scouting. Il a vraiment été en repérage de joueurs chez les jeunes. Il connaît le métier. Et je vais vous dire, aller à Rennes, c'est bien sûr risqué parce qu'on n'aura pas les mêmes moyens. Il va falloir faire des trouvailles, mais je pense que c'est un garçon qui est capable de faire des trouvailles. J'ai aussi vu sur les réseaux sociaux, on a dit pourquoi on ne prend pas un ancien joueur de Lyon? Excusez-moi, mais Juninho, pour l'instant, ce n'est pas forcément la grande réussite. Donc je pense que Florian Maurice, partir à Rennes, n'est pas du tout bête, et je pense que c'est une très bonne idée. Voilà.
Directeur sportif, c'est ça?
Oui, directeur sportif.
Je pense que c'est assez simple, non, l'histoire? Peut-être qu'il espérait être directeur sportif à l'OL.
Oui, puis c'est pas le grand amour avec Juninho.
Et avec Juninho, visiblement, depuis qu'il est arrivé, il a moins de pouvoir, il est moins écouté par le président, et donc il a fait
un bosseur, choix
de carrière.
Pas.
Il a le droit d'être ambitieux.
Vous avez oublié aussi qu'on parle à Lyon pour le remplacer de Bruno Cheroux, qui a un profil.
Qui s'occupe des filles.
À Paris.
Oui, mais qui, Bruno, est quelqu'un qui est un garçon intelligent, structuré, calme, et qui, ce qui n'est peut-être pas forcément une mauvaise idée.
Mais si on l'aurait arrivé ailleurs, ce qui est bien, c'est que Florian Maurice reste en Ligue 1, parce que c'est quelqu'un de très compétent.
C'est vrai.
L'heure est arrivée. Mesdames, messieurs, montée sur scène donc de Bichente Lizarazu.
Ah ouais, c'est l'heure, mais attends, il faut que j'aille chercher le matos.
Laissez-moi
2 secondes, il faut que j'aille chercher le matos.
2 secondes alors, parce qu'il est 54. Le temps, tiens, de lire quelques messages sur les réseaux sociaux.
Petite serve de message, lui, message de Romain, supporter parisien. Le Barça ont recruté Braithwaite et Prince Boateng et il pense avoir Neymar. Pardon, mais je rigole, vous voulez Neymar? Donnez-nous Messi, tout simplement. Message de Tristan, supporter lyonnais. Benzema, Memphis, Dembélé, je rêve déjà. Puis message également de Jules, supporter toulousain, sur les abonnements. Personnellement, je vais être remboursé, plus avoir un salaire la saison prochaine pour voir le TFC en Ligue 2. Je veux au moins, précise-t-il, 25% du salaire de Maxime Gradel.
Vous pouvez continuer à nous rejoindre, hein, 24-24 sur le compte Twitter, @RTLFoot. Alors, la guitare, c'est une Gibson,
Bichente? C'est acoustique, là, non? C'est une Martine.
Ah là là, ouais, d'accord.
Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent,
c'est pas foutu de nous.
Et alors, par contre, je sais pas du tout, parce que tu vois, j'ai mon casque avec mon micro, je sais pas si vous entendez bien la guitare.
Ah ouais, on sent que c'est une Martine.
Vous l'entendez là ou pas?
C'est déjà bon.
Voilà, parce qu'il n'y a pas l'ingé son, quoi. RTL m'a pas envoyé l'ingé son pour vraiment que je sois au point et que j'ai les bons réglages.
T'as ton oreillette, tout ça.
Alors, par contre, Christian, tu annonces la couleur, la chanson ou pas?
Ah non, j'annonce rien du tout.
C'est issu du film Desperado. Vous avez vu ce film Desperado avec Salma Hayek et Antonio Banderas?
Oui, oui, tout à fait. Robert Rodriguez.
Et donc, c'est, on va dire, la musique référence de ce film qui s'appelle La Canción del Mariachi. Donc j'ai chanté
et donc avec Salma Hayek, il y a aussi une petite connotation football.
Mais voilà, exactement. Ah, mais voilà, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Voilà. Tu sais quoi? Je l'ai fait en espagnol parce qu'au moins, vous n'allez pas comprendre. Donc si les paroles, c'est pas parfait, ça passe. Alors qu'en français.
Directeur artistique.
Allez, envoie du lourd, Michel. C'est parti.
Attention, attention, je me chauffe. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dices dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal da sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Yeah yeah, j'ai buzzé, moi j'ai retourné ma chaise. Hein. Je te veux dans mon équipe.
Déchiré.
Mais tu peux remplir le stade.
J'avais
aussi
déchiré
hein.
Un peu quand même à la grappe. Vous avez pas fait gaffe.
Ouais, mais... non, sur les aigus, t'as décroché un peu.
Franchement, j'avais un peu la pression.
Il y a David, il y a l'homme qui sait quoi l'histoire.
C'est pas mal, mais.
Alors, pour tous ceux qui nous rejoindraient, hein, c'est même pas un pari, c'est une promesse qu'a tenue et qu'a honoré.
C'est un pari, je me le suis lancé tout seul. En fait. Je me suis auto-allumé.
Un autre morceau la semaine prochaine, Bichente?
Non, on n'exagère pas.
Le même, réussi.
Non, ça va,
Bon, Bichène, c'est un plaisir. Magnifique. Vraiment, c'est un plaisir de t'accueillir dans On fait le match et bravo, t'as honoré ton pari, mais enfin, reste consultant quand même. Hein.
600 000 personnes qui ont écouté ça. Pardon.
En disque d'or.
On est à 800 000. Là,
on peut peut-être s'excuser d'ailleurs.
Merci beaucoup, Bichène. Bonne soirée.
Allez, ciao.
À bientôt sur l'antenne de RTL.
Salut à tous. C'est pas les grosses têtes,
ciao. Messieurs, non, c'est pas les grosses têtes, mais vraiment, c'était un moment de plaisir. Vraiment, c'était sympa.
C'est cool.
Merci David Aiello. Stéphane Powels, merci beaucoup. Merci Florian Gazan.
Salut Christian.
Merci Philippe. Philippe Sanfourche, merci Baptiste,
merci à tous.
Et surtout merci à vous tous pour vraiment vos messages, restez prudents et j'ai envie même d'aller à 2 minutes de 20h qu'on applaudisse cette fois-ci le personnel soignant avant les informations de 20h pour les encourager, vraiment on pense à eux. Bravo. Tous les soirs à 20h et chaque samedi également dans On fait le match.
Et puis on peut étendre aux gens qui bossent dans les supermarchés, les caissières, les éboueurs, tous ces gens-là aussi,
entièrement
qui ont un rôle très important dans la société.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. À samedi prochain, On fait le match 18h30-20h et prochain rendez-vous sport demain 19h30-20h. On refait le sport avec Le Parisien aujourd'hui en France, présenté par Isabelle Langer. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. RTL.